Mon cher Régis Geoffrey, voilà, c'était fini, elle était morte. Ces quelques mots jetés sur le papier à 16 ans sont votre acte de naissance de romancier. Sensation de magie, dites-vous. Le bonheur est au bout du stylo. Depuis, vous êtes enchaîné à votre table de travail, dimanche et vacances compris.
La littérature, c'est justement l'échappatoire qui peut arriver à sublimer n'importe quelle situation tragique, y compris l'existence.
Né en 1955 à Marseille, vous rêviez d'être acteur genre Belmondo ou photographe. Et vous lisez Proust, Zola, Joyce, livres fleuves et intimidants. Jusqu'à ce qu'un certain sourire, le deuxième roman de Françoise Sagan, vous tombe entre les mains, libre, bref et sensuel. Ça, vous dites-vous, je peux le faire. Éducation catholique, études chez les jésuites, d'où vous êtes viré, faculté de philosophie jusqu'à la maîtrise. 21 ans, Paris, inscrit au cours Simon, vous commencez en même temps à écrire des pièces radiophoniques pour Radio France. Vous signez des papiers pour Art Press, tel quel, Le Monde. J'ai toujours vécu dans l'écriture, dites-vous. Servitude assumée, la littérature c'est comme la Légion, on s'engage et on ferme sa gueule. On vous entend aussi en chanteur, dans un disque jamais distribué. 29 ans, premier roman. Votre réputation grandit à mesure que vos sujets dérangent. Un critique dit de vous que vous êtes le Francis Bacon des cerveaux déglingués.
Il y a l'histoire pour moi et la littérature quand la réalité dérape un moment.
Parce que vous avez emprunté quelques sujets à l'actualité, on vous catalogue comme écrivain de faits divers. Ça vous énerve. Dans un film que vous avez écrit et dans lequel vous avez joué en 2014, vous déambulez en djellaba en disant « L'humanité est peuplée de petites histoires ». Vos micro-fictions en sont la preuve. 1500 sont déjà parues, vous projetez d'en écrire 2500. C'est votre façon de vider le monde à la petite cuillère. Faut pas mollir, mon cher Régis, il y a du boulot.
Et quel boulot. Je disais des assassinats, des suicides, des meurtres, etc. On va dire un univers assez sombre, assez glauque même parfois. Dans quel état êtes-vous lorsque vous écrivez, lorsque vous publiez ça? Est-ce que vous prenez du plaisir en quelque sorte? Est-ce que vous avez en quelque sorte un goût de la transgression, Régis Geoffrey?
Il n'y a aucun goût de la transgression. Il n'y a pas plus de plaisir à écrire l'horreur que pas écrire l'horreur. Mais simplement, il y a un moment... J'ai toujours pensé que l'art, c'était une activité de gens honnêtes. Ne pas raconter ce que je raconte serait malhonnête. Par exemple, dans ce livre, je raconte entre autres la pandémie, parce qu'on l'a traversée. Je pense que c'est quelque chose de fondamental dans notre époque, parce que même les enfants de 2 ans ont subi la pandémie. Ce sont des individus qui vont vivre en 2100, 2120, etc. C'est la première fois c'est même pas une guerre mondiale, parce que c'est le monde entier qui est, alors que dans la guerre mondiale, ça n'est pas le cas. Et là, je raconte cette expérience qu'elle a pu être. Je raconte des choses qu'on ne veut pas entendre.
La violence.
Écoutez, je raconte quelque chose. J'ai hurlé dans tous les journaux à ce sujet-là. Alors on a dit, oh, comme c'est beau ce que vous dites, on n'a rien changé. Et là, il y a une histoire qui raconte cela, qui raconte l'histoire d'un personnage qui n'existe pas, mais qui n'est pas imaginaire non plus. C'était simplement que la préfecture de police, dans sa grande générosité, a décidé de mettre les SDF qui le voulaient bien à l'abri du virus dans des hôtels réquisitionnés. C'était des chambres de 10 mètres carrés qu'on les mettait par deux par chambre, sans masque et sans les avoir testés. Voilà. Est-ce que vous auriez mis vos parents? Est-ce que vous auriez pas mis vos enfants? Quand on me parle, la pédocriminalité était quelque chose de terrible à ce moment-là. Dans ces petits logements où tous ces enfants ont été maltraités, ces femmes ont été maltraitées.
Les violences intrafamiliales.
Ces violences, on n'en parle pas. On n'en a pas parlé. Alors ça imbibe ma littérature, parce que ça imbibe l'art lui-même.
Justement, c'est un cri, et vous racontez tout ça, vous racontez ce réel-là, et la pandémie, elle est très présente, effectivement, dans ces micro-fictions, et vous êtes un peu une exception en la matière, Régis Geoffrey, parce qu'il y a très peu d'auteurs qui se sont penchés sur cette pandémie, sur ce Covid qui a chamboulé nos vies depuis maintenant plus de 2 ans, Jean-Mathieu.
Ah bah oui, la pandémie n'a pas du tout inspiré, c'est vrai, les romanciers, après le premier confinement, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y avait eu une épidémie auprès des éditeurs de journaux de confinement, bon, avec des échecs commerciaux terribles derrière, mais parmi les finalistes des prix Goncourt 2020-2021, eh bien, aucun ne traitait du coronavirus. Même chose pour les meilleures ventes de livres cette année. Un événement planétaire qui semble avoir été ignoré et qui a séché également les plumes des scénaristes, puisqu'à part des deux films français pour plateforme, dont un réalisé par Danny Boone, eh bien, le Covid-19 est aux abonnés absents des fictions longues diffusées sur nos écrans. Alors, seules certaines séries en tiennent compte, comme En Thérapie, diffusée avec brio sur Arte, d'ailleurs. Mais l'intrigue à base de gel hydroalcoolique, eh bien, ça, c'est une rareté. Tellement rare, d'ailleurs, que le directeur cinéma de France Télévisions, le 1er avril dernier, s'est fendu de ce tweet. Vous allez le voir. Le 1er avril, donc nous sommes le 1er avril 2022, il y a un an, nous entamions le troisième confinement, il y a deux ans, nous applaudissions les soignants chaque soir à 20h et je n'ai toujours pas lu un seul script qui mentionne la présence du Covid dans nos vies, donc il faudrait peut-être l'aider cet homme. Donc vous êtes un peu une exception, comme l'a dit Renaud. Pourquoi finalement c'est aussi romanesque que ça?
C'est pas romanesque, c'est simplement, moi je suis transpercé par l'époque, mais moi ce qui m'a frappé, c'est que quand il y a eu ces confinements, on interviewait les gens un peu connus ou pas connus, moi on m'a interviewé, je disais mon histoire n'a aucun intérêt. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui a un espace vital assez important et qui n'a pas de problème matériel du fait de la pandémie, moi, ce qui m'intéresse, c'est les histoires des autres. Parce que je pense que par la fiction, contrairement à ce qu'on pense en français, ce qu'on a toujours pensé, je crois qu'on peut raconter des histoires derrière lesquelles l'auteur n'est pas là. Je le crois. Je crois que dans ces histoires-là, je peux me tromper, mais les personnages que j'ai suscité, ça n'est pas moi. Je veux dire, on arrive à raconter les autres, et c'est les autres qui sont intéressants dans cette histoire de pandémie. Pas la petite pandémie du petit auteur qui est chez lui et qui ne peut pas aller au restaurant le soir.
Vous racontez de la violence, on le disait, vous racontez des violences. On a l'impression, quand on vous lit, que rien vous dégoûte, que rien vous rebute. Est-ce que vous avez malgré tout des tabous, conscients ou inconscients, des moments où vous dites, ça peut-être je ne peux pas le dire, je vais m'auto-censurer? Parce que c'est pas facile à lire. Hein,
je ne sais pas. En tout cas, il y a une sorte d'assesse, c'est-à-dire qu'on ne doit pas reculer devant certaines choses. Alors, je ne pense pas que de parler de SDF, ce soit sale. Je ne pense pas que parler de la pauvreté, même quand c'est quelqu'un qui va aller chercher dans les poubelles, soit sale. Et je voudrais d'ailleurs enlever une espèce de mythologie. Quand vous allez, pour des raisons X ou Y, vous occuper de près ou de loin de SDF à Paris, ce sont des gens qui sont propres, ce sont des gens qui se lavent, il y a des services de douche qui sont utilisés, qui sont organisés, ce sont des gens qui ont des vêtements propres. Donc cette assimilation qui date de loin, entre la misère et la crasse, mais c'est pas ce que vous disiez, mais je veux dire, il faut quand même que les gens comprennent que c'est pas la réalité. Et je pense qu'il faut assumer son époque. Je crois pas que mes petites histoires à moi, qui m'arrivent à moi, soient intéressantes. Voilà. Honnêtement, c'est pas. Il m'arrive pas des petites histoires intéressantes. Maintenant, après, vous avez des gens qui trouvent que...
Vous utilisez le jeu, mais c'est pas vous, en fait. Effectivement, vous écrivez à la première personne, mais évidemment que c'est pas vous. Et en même temps, vous racontez ce que vous dites. Vous racontez le réel, de fait, même si c'est imaginaire. Et on a une archive à vous montrer, Régis Geoffrey, parce que c'est vrai qu'il y a d'autres grands écrivains, et notamment un qui a contribué, dites-vous, à votre plaisir de la lecture, qui puisait un petit peu, lui aussi, justement, dans les mêmes univers, Nadia.
Un auteur que vous aimez partager, il disait ne rien vouloir prouver, ne rien vouloir juger, juste raconter ses petites anecdotes, des petites histoires. Il s'agit de l'écrivain de génie, Georges Simenon, dans cette archive de l'ORTF. On est en 1957 et il fait un vœu, on regarde.
Pourquoi vous aviez écrit « Pourvu que je vive assez vieux » ?
Parce que je crois que la connaissance de l'homme évolue presque toutes les années de notre vie. Nous voyons le monde chaque année d'une façon, ou mettons tous les 10 ans, si vous préférez, d'une façon différente, à mesure que nous avançons nous-mêmes en âge. Or, le romancier complet doit nécessairement avoir vu le monde de tous les âges, donc de tous les points de vue, donc il doit vivre très vieux. C'est pour ça que je souhaite vivre très vieux, parce que je me considérerais romancier complet qu'à ce moment-là.